Mégane. Jeudi 10 janvier 2013. Matin. Parfois, je n'ai envie d'aller nulle part. J'ai l'impression que je serai heureuse de n'avoir plus jamais à remettre les pieds dehors. Même le travail ne me manque pas. J'ai juste envie de rester à l'abri, au chaud dans mon cocon avec Scott, sans personne pour venir me déranger. D'autant plus qu'il fait sombre et froid et que la météo est pourrie. Il pleut sans interruption depuis des semaines. Une pluie battante, glaciale, amère, avec le vent qui hurle dans les arbres, si fort qu'il en noie le bruit des trains. Je ne les entends plus passer sur les rails, à m'attirer avec ce rêve d'horizon inconnu. Aujourd'hui, je n'ai envie d'aller nulle part. Je n'ai pas envie de m'enfuir. Je n'ai même pas envie d'aller au bout de la rue. J'ai envie de rester là, enfermée avec mon mari, à manger de la glace devant la télé après l'avoir appelé au travail pour qu'il rentre plus tôt et qu'on fasse l'amour au milieu de l'après-midi. Bien sûr, je serai obligée de sortir tout à l'heure, car c'est le jour de ma séance avec Kamal. Ces derniers temps, je lui parle de Scott, de tout ce que j'ai fait de mal, de mes échecs en tant qu'épouse. Kamal dit qu'il faut que je trouve le moyen de me rendre heureuse, que j'arrête de chercher le bonheur ailleurs. Et c'est vrai, je le sais bien. Mais dès que je me retrouve face à une tentation, je pense « Et puis merde, la vie est trop courte !» Je me rappelle cette fois où on est allé en famille, à Santa Margherita, pour les vacances de Pâques. Je venais d'avoir 15 ans, et j'ai rencontré un type sur la plage, beaucoup plus âgé que moi. La trentaine au moins, peut-être même 40 ans. Et il m'a invité à aller faire du bateau le lendemain. Ben était avec moi, et il a été invité, lui aussi. Mais, en bon grand frère protecteur, il m'a dit qu'on ferait mieux de ne pas accepter, parce qu'il ne faisait pas confiance à ce type, que c'était un vieux pervers. Il avait raison, évidemment. Mais j'étais furieuse. Quand est-ce qu'on aurait de nouveau la chance de naviguer sur la mer Ligure, à bord d'un yacht privé? Ben m'a répondu qu'on aurait des tas d'opportunités de ce genre, que notre vie regorgerait d'aventures. Au final, nous n'y sommes pas allés, et cet été-là, Ben a perdu le contrôle de sa moto sur la 10. Nous ne sommes jamais montés ensemble sur un bateau, lui et moi. Ça me manque, cette façon d'être quand il n'y avait que nous deux. Ben et moi, on n'avait peur de rien. J'ai parlé de Ben à Kamal, mais on commence à se rapprocher du reste maintenant, de la vérité. Toute la vérité. Ce qui s'est passé avec Mac, avant, après. Je ne cours aucun risque avec Kamal. Il ne pourra rien dire à personne, à cause du secret médical. Mais même s'il le pouvait, je ne pense pas qu'il le ferait. Je lui fais vraiment confiance. C'est drôle, mais ce qui m'empêche de tout lui raconter, ce n'est pas la peur de ce qu'il en ferait, ni la peur qu'il me juge. Non, c'est Scott. J'aurais l'impression de trahir Scott si je confiais à Kamal quelque chose que je ne peux pas lui confier, à lui. Quand on pense aux autres choses que j'ai faites, toutes ces trahisons, ça devrait n'être qu'une goutte d'eau. Et pourtant, d'une certaine manière, ça me paraît pire, parce que ça, c'est la vraie vie. C'est ce qu'il y a au plus profond de moi, et je ne le partage même pas avec lui. Je garde encore des choses pour moi, parce que, évidemment, je ne peux pas expliquer tout ce que je ressens. Je sais que c'est censé être le principe d'une thérapie, mais je n'y arrive pas. Je me force à rester vague, à mélanger les hommes, les amants et les ex-copains. Mais je me répète que ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas eux l'important. L'important, c'est ce qu'ils provoquent en moi. Leur présence me rend oppressée, fébrile, affamée. Pourquoi ne puis-je pas avoir ce que je veux? Pourquoi ne peuvent-ils pas me donner ce que je veux? Parfois, ils y parviennent. Parfois, je n'ai besoin que de Scott. Si j'apprends à retenir ce sentiment, celui que j'éprouve en ce moment même, Si j'arrive à comprendre comment me concentrer sur ce bonheur-là, comment apprécier l'instant présent sans me demander d'où viendra la prochaine excitation, alors tout ira bien. Soir. Quand je suis avec Kamal, il faut que je me concentre. J'ai du mal à ne pas laisser vagabonder mon esprit quand il m'observe, avec ses yeux de fauve, quand il joint les mains sur ses genoux, ses longues jambes croisées devant lui. C'est difficile de ne pas penser à ce qu'on pourrait faire ensemble. Il faut que je me concentre. On a parlé de ce qui s'est passé après l'enterrement de Ben, après ma fugue. Je suis restée quelque temps à Ipswich, pas très longtemps. C'est là que j'ai rencontré Mac, la première fois. Il travaillait dans un pub, quelque chose comme ça. Il m'a ramassée en revenant du boulot. Il a eu pitié de moi. Il ne voulait même pas... Vous voyez ? Dis-je en riant. On est allé à son appartement, je lui ai demandé de l'argent et il m'a regardée comme si j'étais cinglée. Je lui ai dit que j'avais l'âge, mais il ne m'a pas cru. Alors il a attendu, si, je vous jure, il a attendu mes 16 ans. Entre-temps, il s'était installé dans une vieille maison près de Holkham, un vieux cottage en pierre au bout d'un chemin qui ne menait nulle part, avec un petit terrain autour, à 800 mètres de la plage. Une voie ferrée désaffectée longeait un des côtés de la propriété. La nuit, je restais éveillée. J'étais toujours défoncée à cette époque, on fumait beaucoup. Et j'imaginais que j'entendais les trains. J'en étais persuadée parfois, au point de me lever et de sortir pour chercher les lumières. Kamal remue sur sa chaise et hoche lentement la tête. Il ne répond pas. Ça veut dire qu'il veut que je continue de parler. J'étais très heureuse là-bas, au final, avec Mac. J'ai vécu avec lui pendant à peu près 3 ans, je crois, en tout. J'avais 19 ans quand je suis partie. C'est ça, 19 ans.
Et pourquoi êtes-vous partie, si vous étiez heureuse ? Me demande-t-il.
Nous y voilà. On y est arrivé plus tôt que je ne le pensais. Mais je n'ai pas eu le temps de tout examiner, de m'y préparer. Je ne peux pas. C'est trop tôt. Mac m'a quitté. Il m'a brisé le cœur, dis-je. Et c'est la vérité. Mais c'est aussi un mensonge. Je ne suis pas encore prête à dire toute la vérité. Quand je rentre, Scott n'est pas là. Alors j'ouvre mon ordinateur portable et pour la toute première fois, je le cherche sur Google. Pour la première fois en 10 ans, je cherche Mac. Mais je ne le trouve pas. Il y a des centaines de Greg McKenzie dans le monde et aucun d'entre eux n'a l'air d'être le mien. Vendredi 8 février 2013. Matin. Je marche dans les bois. Je me suis levée bien avant les premiers rayons de soleil, et l'aube se lève à peine. Il règne un silence de mort à l'exception des soudains gazouillis des hirondelles au-dessus de ma tête, de temps en temps. Je les sens m'observer de leurs yeux perçants, calculateurs. Une nuée d'hirondelles. Passe, passe, passera, la dernière y restera, nous l'attraperons, la petite hirondelle. Il n'est pas né. Celui qui m'attrapera. Scott n'est pas là. Il est en déplacement, quelque part, dans le Sussex, pour le travail. Il est parti hier matin et ne sera pas de retour avant ce soir. Je peux faire ce que je veux. Avant qu'il parte, j'ai dit à Scott que j'irai au cinéma avec Tara, après ma séance. Je lui ai dit que j'éteindrais mon téléphone. J'ai prévenu Tara qu'il risquait de l'appeler pour vérifier, et cette fois, elle m'a demandé ce que je fabriquais. Je me suis contentée d'un clin d'œil et d'un sourire, et elle a ri. Elle m'a l'air très seule. Je me suis dit que ça ne pouvait pas lui faire de mal, un peu de mystère. Pendant ma séance avec Kamal, on a discuté de Scott, de l'incident avec l'ordinateur. C'était il y a 1 semaine environ. J'ai fait des recherches pour trouver Mac, plusieurs fois. Je voulais juste savoir où il se trouvait, où il en était de sa vie. Tout le monde a sa photo sur Internet de nos jours. Et j'avais juste envie de voir son visage. Je n'ai pas réussi. Je me suis couchée tôt ce soir-là. Scott est resté regarder la télévision et j'avais oublié d'effacer l'historique de mon navigateur.
Une erreur stupide. D'habitude, c'est la dernière chose que je fais avant d'éteindre l'ordinateur, quoi que j'y ai cherché. Je sais que Scott a des trucs pour trouver ce que je fais, quand même, vu qu'il s'y connaît en informatique. Mais ça lui prend plus de temps, alors il a tendance à laisser tomber. Bref, cette fois-là, j'ai oublié. Le lendemain, on a eu une dispute. Une de celles qui laissent des traces. Il exigeait de savoir qui était Greg, depuis combien de temps je le voyais, où on s'était rencontrés, ce qu'il m'apportait de plus que lui. Bêtement, je lui ai dit que c'était un ami de mon passé. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Kamal m'a demandé si j'avais peur de Scott, et ça m'a rendue furieuse. « C'est mon mari !» ai-je craché. « Bien sûr que non, je n'ai pas peur de lui !» Kamal a eu l'air choqué. Après tout, je me suis choquée moi-même. Je n'avais pas imaginé la force de ma colère, l'ampleur de mon instinct de protection envers Scott. Ça m'a surprise, moi aussi. Malheureusement, il existe beaucoup de femmes qui ont peur de leur mari, Megan. J'ai essayé de dire quelque chose, mais il a levé une main pour m'arrêter. Le comportement que vous décrivez, lire vos mails, regardez votre historique internet. Vous décrivez ça comme si c'était anodin, comme si c'était normal. Mais ça ne l'est pas, Megan. Une telle intrusion dans la vie privée de quelqu'un d'autre, ce n'est pas normal. C'est souvent compris comme une forme de violence psychologique. À ce moment-là, j'ai ri, parce que c'était un peu trop mélodramatique. « Ce n'est pas de la violence !» ai-je dit. « Pas quand on s'en fiche. » Et je m'en fiche, complètement. Il m'a souri. Un sourire triste. Vous ne pensez pas que c'est dommage? J'ai haussé les épaules. Si, peut-être. Mais le fait est que je m'en fiche. Il est jaloux et possessif, c'est comme ça. Ça ne m'empêche pas de l'aimer, et ça ne vaut pas la peine de se disputer pour ces choses-là. Je fais attention. Enfin, d'habitude. J'efface mes traces, alors le plus souvent, le problème ne se pose pas. Il a secoué la tête presque imperceptiblement. Je croyais que vous n'étiez pas là pour émettre un jugement, et j'ajoutais. À la fin de la séance, je lui ai proposé de prendre un verre avec moi. Il a dit non, qu'il ne pouvait pas, que ce serait déplacé. Alors, je l'ai suivi jusque chez lui. Il habite dans un appartement juste au bout de la rue de son cabinet. J'ai frappé, et quand il a ouvert, j'ai demandé « Et ça, c'est déplacé ?» J'ai glissé une main derrière sa nuque, je me suis mise sur la pointe des pieds et je l'ai embrassé sur la bouche. « Megan, » a-t-il murmuré, sa voix comme du velours. « Non, je ne peux pas, non. » C'était un délice, cette guerre de l'attirance et de la morale, du désir et de la retenue. Je ne voulais pas perdre ce sentiment. J'aurais tant voulu pouvoir m'y accrocher. Je me suis réveillée très tôt ce matin, avec la tête qui tournait, pleine d'histoires. Je ne pouvais pas rester allongée là, avec mon esprit agité par toutes ces opportunités que je pouvais saisir ou abandonner. Alors je me suis levée, je me suis habillée et je suis partie marcher. J'ai fini par arriver ici. Tout en marchant, je me suis rejouée la scène dans ma tête. Ce qu'il a dit. Ce que j'ai dit, la tentation, la libération. Si seulement je parvenais à me décider sur quelque chose, à choisir de me fixer, s'enfuir. Et si ce que je cherchais était introuvable? Si c'était tout bonnement impossible? L'air est glacé dans mes poumons, le bout de mes doigts commence à bleuir. Une partie de moi voudrait s'étendre là, parmi les feuilles mortes, et laisser le froid m'emporter. Mais je ne peux pas. Il est temps de repartir. Il est presque 9 heures quand je retrouve Blenheim Road. Et alors que je tourne au coin de la rue, je la vois qui avance dans ma direction, la poussette devant elle. Pour une fois, l'enfant ne fait aucun bruit. Elle me regarde et me fait un signe de tête avec un pauvre sourire. Mais je ne le lui rends pas. En temps normal, je simulerais la politesse. Mais ce matin, je me sens authentique. Je me sens moi-même. Je suis exaltée, comme si j'étais défoncée. Et même si j'en avais envie, je serais incapable de feindre la gentillesse. Après-midi. Je me suis endormie cet après-midi. Je me suis réveillée enfiévrée, en panique. Coupable. Je me sens coupable, vraiment. Mais pas assez. Je me suis rappelée quand il est parti, au milieu de la nuit, en me disant encore que c'était la dernière fois, la toute dernière, qu'on ne pouvait pas recommencer. Il était en train de s'habiller, il enfilait son jean. Allongée sur le lit, j'ai ri, parce que c'était déjà ce qu'il avait dit la dernière fois, et la fois d'avant encore. Il m'a jeté un regard. Je ne sais pas comment le décrire. Ce n'était pas de la colère, pas exactement, ni du mépris, non. C'était un avertissement. Je me sens mal. J'erre dans la maison, incapable de me poser quelque part. J'ai l'impression que quelqu'un est venu pendant mon sommeil. Tout est à sa place, mais la maison semble différente, comme si on avait touché aux objets, qu'on les avait imperceptiblement déplacés. Et tandis que je marche, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un avec moi, qui ne cesse d'échapper à mon champ de vision. Je vérifie 3 fois les portes-fenêtres qui donnent sur le jardin, mais elles sont bien verrouillées. J'ai hâte que Scott rentre. J'ai besoin de lui.